Alors, on écourte les transitions et les moments intermédiaires. Juste malgré tout, comme le temps est compté, hein, je vais un peu caricaturer ce que j'avais dit, je crains. Mais mon objectif, c'était pas de vous présenter des choses que vous connaissez mieux que nous, même si on va sur des terrains. C'est plutôt de soulever des questions. Des questions qui peuvent faire débat et prêter à éventuellement des accords. Tout le monde n'est pas forcément sur des positions de consensus. Et des questions qui induisent des problèmes pratiques, c'est-à-dire comment fait-on au quotidien. Donc c'était un peu mon choix de m'axer sur cet aspect-là. Alors, premier point. On a tendance à considérer, quand on est à l'éducation nationale, et comme je vous disais, je suis déjà depuis très longtemps, on parle souvent d'entités en quelque sorte globalisantes, abstraites, générales, l'établissement scolaire. Alors le collège, mettons, Paul Bert, Saint-Exupéry, ou le lycée, etc. Donc cela sous-entend une espèce de vision monolithique de l'établissement. Alors déjà, pour un établissement scolaire banal, je dirais, ça peut poser quelques problèmes, mais quand il s'agit d'un internat, à mon avis, là, ça se complique considérablement. Parce que je ne pense pas qu'on ait affaire à un établissement monolithique quand on est dans un internat. Alors, je vais vous citer juste un bout de règlement intérieur que j'ai trouvé en allant sur les sites des établissements, des IE que nous étudions. Bon, chacun a droit au respect de l'autre. Une tenue vestimentaire et une attitude correcte sont exigées. Bon, et ça se poursuit. Chacun doit l'adopter en tout lieu et en toute occasion. Doit adopter en tout lieu et en toute occasion une tenue décente. Bon, on se dit ok, mais ça se poursuit. Et c'est là que ça devient compliqué. Le port du couvre-chef est interdit à l'intérieur des bâtiments. Petit détail, et dans la cour. Et un couvre-chef, il y en a toutes sortes. Tout signe extérieur qui constitue en lui-même un élément de prosélytisme ou de discrimination est interdit. Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Quand on est dans un établissement avec des chambres, est-ce qu'on considère que la chambre fait partie des bâtiments ou qu'elle est un espèce de territoire bizarre qui ne relèverait pas du règlement intérieur. Donc, si elles relèvent du règlement intérieur, les filles, par exemple, n'ont pas le droit de porter les voiles dans leur chambre. Bon, dans certains établissements, il semble qu'elles en portent. Si je fais référence hier à l'exemple qui était pointé de l'internat d'excellence de Corté, qui bat le record d'intégration d'élèves issus première ou deuxième génération de l'immigration, est-on sûr que la question ne se pose pas? Comment fait-on? Est-ce qu'on fait respecter le règlement intérieur ou bien est-ce qu'on considère que le règlement intérieur va passer à la trappe? Et à ce moment-là, quand même, il faut pointer que non seulement par rapport aux jeunes qui sont directement concernés, mais par rapport à tous ceux qui sont dans leur environnement, qui les voient, c'est-à-dire tous les élèves de l'internat d'excellence, s'aperçoivent qu'il y a des aménagements avec le règlement intérieur. Donc, si vous voulez, ma première question, c'est de dire, quand on est dans un établissement comme un internat, il y a des problèmes spécifiques qui se posent. Est-ce qu'on rédige un règlement intérieur en y pensant et en pensant au fait qu'il soit applicable ou pas, et aux repères que cela donne ou qu'éventuellement cela entame par rapport aux jeunes dont on dit que eux n'en ont pas. Bon, c'est une première question. Je suis un peu brusque à cause du temps, vous m'excuserez, c'est peut-être aussi une affaire de tempérament. Il y a aussi le poids des mots, quand même, je voudrais. Si on est dans une perspective strictement scolaire, le poids des mots, ça compte. Ça compte dans une perspective scolaire et éducative, ça compte dans une perspective cognitive et citoyenne. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur un noyau qui fait vraiment question, qui peut faire débat, et a été évoqué dans l'atelier auquel j'assistais, je n'y ai pas fait référence, une autre question sensible, que je pointerai pas plus ici, la cigarette. Voyez. Donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux forts et ça peut être intéressant que vous échangiez entre vous sur ces aspects-là. Je voudrais aborder un deuxième point. L'organisation des lieux. En fait, il en a été question ponctuellement, par-ci, par-là, hier. Par exemple, on a parlé d'un établissement dans lequel les enseignants ont des bureaux. Bon, je dirais volontiers, peut-être entre vous, si vous visitez vos établissements ou si vous les visitez avec les yeux d'un parent d'élève, quand vous visitez les lieux, qu'est-ce que vous voyez ? Et quand vous visitez les lieux, c'est-à-dire les pièces, leur décoration, leur aménagement, leur disposition par rapport à l'entrée, par rapport au bureau du CPE, la salle des profs, l'administration, etc., qu'est-ce que vous voyez aussi comme objet, comme équipement, voyez ? Ça me paraît des points intéressants à observer. Comment est-ce qu'on découvre un établissement par ses lieux ? Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a une salle de télévision ? Qu'est-ce qu'il y a pour la lecture ? Moi, ce qui m'a frappé, bon, puisqu'on a déjà rédigé un rapport avec les collègues, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, la lecture n'est pas très investie. C'est-à-dire que vous êtes la plupart du temps dans des établissements jeunes, et c'est un point important à prendre en compte, vous n'avez pas forcément un fonds, comme peut l'avoir un établissement qui a déjà une certaine ancienneté. Quelle part est consacrée à une bibliothèque ? Une bibliothèque qui ne soit pas seulement des manuels à mettre à disposition aux élèves, mais toutes sortes d'autres choses. Quel aménagement à la bibliothèque pour lire, par exemple, confortablement ? Quels horaires d'ouverture ? Et moi, il m'a semblé que finalement, la lecture n'était pas forcément une activité valorisée. En tous les cas, dont la valorisation était visible. Parce qu'il y a les incantations, mais il y a aussi les conditions concrètes. J'ai observé, par exemple, personnellement, et ça m'a beaucoup touché, je dois dire, des élèves de quatrième en études qui avaient prévu dans leur cartable, quand ils auraient fini leurs devoirs, des revues pour pouvoir lire. Des revues qu'ils s'achètent. Philosophie Magazine, ils étaient en quatrième, des revues plus style jeune, etc., diverses, voyez, mais bon, des revues en même temps culturelles, solides. D'autres, des garçons, exclusivement, vous voyez, par rapport à ce qu'on dit des garçons, je trouve qu'il y a des choses qui sont compliquées. Les garçons, dans des lectures au long cours de trucs, vous savez, enfin, je suis désolée, je suis pas assez culture jeune, qui se lisent de tome en tome, des tomes de 600 pages, premier tome, deuxième tome, c'est absolument considérable, et qui se lancent là-dedans, qui ont leur volume ou qui éventuellement les empruntent, tandis que les filles sont dans leur petit calepin, leur jagenta, à faire des petits dessins, des petits machins, des bon. Je suis désolée, hein. Qu'est-ce qu'on voit en termes de salles de télévision ? J'ai quand même été frappée notamment par l'intervention hier d'un grand responsable avec ses histoires de matchs de foot. Bon, moi, je suis pas très match de foot, mais je veux dire que la télévision est parfois complètement bannie des IE. Elle est parfois présente avec des programmes choisis par les assistants d'éducation à vocation, programmes à vocation documentaire, mais par contre, il y a quelque chose qui va de soi, les matchs de foot. Et j'ai quand même été assez étonnée. Est-ce que c'est une modernisation ? Est-ce que c'est une entrée dans la haute culture du foot comme le théâtre ? Enfin, je ne sais pas, je laisse ça, à vos remarques. Mais en tous les cas, bon, par contre, il y a beaucoup de sorties. Et ce que j'ai remarqué, je voudrais quand même attirer votre attention, avec comme perspective aussi de réfléchir à la transférabilité sur des internats en excellence, les sorties, c'est quelque chose qui fait quand même la publicité de l'internat d'excellence. C'est-à-dire que je les ai repérées, notamment dans des lieux où je ne suis jamais allée, sur les sites. Et on va là, et on a été là, et l'année dernière... Ça, c'est vrai que c'est assez bien. Mais dans la mesure où ces sorties ont quelque chose d'exceptionnel, je crois que ça conduit à poser une question sur le type de pédagogie auquel, disons, qu'on promeut en quelque sorte en internat d'excellence. Et que peut-être qu'on a tendance à insister sur les dimensions volontaristes et obligatoires pour faire des compléments à des jeunes qui n'ont pas une, je dirais, une immersion dans une culture noble dans leur famille. Mais est-ce que ce chemin qui paraît le plus court est le plus efficace? C'est une question. Bon. Alors, je voudrais en venir. Il me reste combien de temps? 5 minutes? Non. Je voudrais en venir à l'organisation du temps. Donc, rapidement, puisque ça a déjà été abordé, moi j'ai été frappée, il n'y a pas de temps vide. Alors c'est peut-être aussi un comportement assez moderne. Bon, quand je vois les gens dans le métro ou partout, je les vois avec leur MP3 sur les oreilles. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours du temps plein. Voyez. Mais je suis pas sûre, enfin, c'est peut-être là où je dois me dire que je vieillis, mais comment est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on assimile quand le temps est toujours plein? Vous voyez? Dire que on peut pas revenir, on peut pas réfléchir, on peut pas passer en revue ce qu'on a fait, ce qui a intéressé, quand on n'a pas le temps de se projeter dans le futur, parce que le temps est plein. Vous voyez? Bon, pour moi, c'est une vraie question. Et ce temps est plein, et je dirais avec un côté hyper raisonnable. C'est-à-dire que même quand il y a des moments de détente, les moments de détente sont argumentés. Bon, dans des entretiens que j'ai entendus en voyant les données qui circulaient d'un internat à l'autre, le temps est argumenté. C'est pour la bonne santé. C'est-à-dire que c'est pas du temps pour se faire plaisir. Voyez, c'est du temps pour être en bonne santé. Moi, je pense à certaines personnes âgées qui jouent au Scrabble, pas pour le plaisir de jouer, non, pour s'entretenir la mémoire. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut... Enfin, je ne suis pas sûre que dans la durée, parce que pour moi, l'école, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Donc l'objectif, c'est pas d'être premier au début, c'est d'être dans les bons à l'arrivée. Est-ce qu'on peut tenir comme ça longtemps? Je sais pas. Mais c'est... voilà, je sais pas. Alors, je voulais aborder un dernier point en conclusion, en quelque sorte. Hier, il y a eu des questions qui ont été posées autour de l'articulation entre le collectif et l'individuel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps collectifs qui peuvent être pesants dans la vie d'un internat. À l'échelle de la classe, à l'échelle de l'étage, à l'échelle de la chambre. On a évoqué les chambres de, quand il y a des chambres de 3, quand il y a des chambres de 4. C'est pesant et les problèmes s'en trouvent démultipliés. Et puis, à l'autre extrême, le temps individuel. Bon, de suivi, d'accompagnement, de tutorat, etc. Parce que finalement, apprendre le sous-entendu qui court, me semble-t-il, c'est une activité individuelle. Et donc, on est entre deux. Et la question qui était posée de cette articulation entre temps individuel et temps collectif, est-ce qu'elle ne serait pas à trouver dans l'organisation de temps de moments et d'instances où il y a une parole, une possibilité de prise de décision, un poids des internes sur leur vie à l'internat? Or, ça, c'est très, très peu présent. C'est-à-dire que si on ne pose pas de questions volontaristes, donc... Nous, en tant que chercheurs, on s'en aperçoit un petit peu après coup, hein, parce que sinon, on a tendance à laisser parter. On nous parle pas de maison des lycéens, on nous parle pas de foyer, on nous parle pas beaucoup de clubs ou rarement. Et quelles sont les instances dans lesquelles les internes, que ce soit des collégiens ou des lycéens, ont vraiment, en tant que groupe, que sous-groupe, autogéré, choisi, co-choisi, ont la possibilité de peser sur l'organisation du temps de l'internat. C'est pour moi un vrai problème et il me semble que du coup la pédagogie en quelque sorte de l'internat, elle est prise dans une espèce de trilogie de pédagogie scolaire, de pédagogie de l'imprégnation et de l'immersion qu'elle oublie peut-être un peu beaucoup, qui serait liée à la conception de l'environnement et du temps, au profit d'une pédagogie de l'extraordinaire avec des sorties et des activités qui ont un côté un peu spectaculaire à certains moments. Je sens que je dois avoir fini.